Bonjour à tous. Je vous propose de lire le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, qui relate la parabole du fils prodigue. Alors voici une peinture très célèbre où Rembrandt a peint le retour du fils prodigue. Ce tableau est exposé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On voit bien sûr le fils qui revient à genoux, aux pieds de son père, bien sûr. Et puis, le fils aîné, debout à droite. Et puis, assis, le peintre, avec son béret, chapeau noir plutôt, qui, comme en arrière-plan, l'artiste se peint lui-même un autoportrait. Alors, je souhaite aborder avec vous ce matin, bien sûr, le contexte, les trois paraboles de ce chapitre, le fils prodigue, le père, le fils aîné, et puis un mot sur les serviteurs. Voyons d'abord dans quel contexte cette parabole est donnée. Luc 15 s'insère dans la montée de Jésus à Jérusalem. En Luc 13, il est écrit « Jésus poursuit son chemin vers Jérusalem ». Mais Luc 15 est détaché de ce qui précède, chapitre 14, par une introduction qui lui est propre, les trois premiers versets. Il est détaché aussi du chapitre suivant, premier verset, qui marque une transition visible. Au premier verset de Luc 15, nous lisons « Tous les publicains et les pécheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter ». Et au verset 2, les pharisiens et les scribes murmurent, disant « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Nous aussi, comme les pharisiens, on pourrait s'interroger sur l'attitude de Jésus. Mais est-ce raisonnable? Est-ce juste que Jésus fréquente des gens de mauvaise réputation? Ils partagent en plus leur repas. Ne cautionne-t-il pas par la conduite douteuse de ces personnes? Jésus, par ces trois paraboles de ce chapitre, va réagir à ces murmures des pharisiens et peut-être à nos propres murmures. Et Jésus va apporter une réponse argumentée. Il répond à ceux qui contestent son attitude d'humanité, qui contestent son attitude de bonté envers les hommes pécheurs que nous sommes tous. En mangeant avec des gens de mauvaise vie, mais qui acceptent humblement de l'écouter et de reconnaître leur culpabilité, Jésus va exprimer la joie avec laquelle Dieu est prêt à nous accueillir à bras ouverts. Luc utilise trois fois dans son évangile le verbe qui a été traduit par « murmurer » au chapitre 5, 15, 19 pour décrire la réaction répétée des scribes, des pharisiens qui sont mécontents de la proximité de Jésus avec des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Au chapitre 5, Jésus s'invite dans la maison de Lévi. Alors là, c'est un publicain, collecteur d'impôts, et qui était méprisé à l'époque, parce que souvent peut-être malhonnête. Mais il y a encore beaucoup plus que Lévi, il y a d'autres publicains en plus qui mangent avec Jésus et ses disciples. Alors plusieurs scribes et pharisiens s'en aperçoivent et s'en offusquent. Mais Jésus, répondant, leur dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » On trouve les mêmes pharisiens en Luc 15. Peut-être sont-ils plus nombreux. Le chapitre d'aujourd'hui, dans ce chapitre 15, il y a des pécheurs aussi qui s'approchent de Jésus. Des pécheurs, c'est-à-dire des personnes de mauvaise vie, vivant dans un mal moral qui est connu, qui est avéré. Alors bien sûr, les pharisiens vont murmurer encore. Au chapitre 19, lorsque Jésus prend un repas dans la maison de Zachée, alors lui c'était le chef des collecteurs d'impôts. Et en plus il était riche, s'est-il dit. Donc c'est un doute sur son honnêteté. Beaucoup murmurent en disant, il est allé loger chez un pécheur. Jésus va leur répondre, le Fils de l'homme est venu chercher. Il est venu sauver ce qui était perdu. Orgueilleux, les pharisiens se croyaient les dépositaires de la moralité, de la justice. Et ils estiment que Jésus, en fréquentant de tels pécheurs, méprise cette moralité, méprise cette justice. Et leur murmure exprime le dédain qu'ils ont pour les collecteurs d'impôts, c'est sûr, le dédain qu'ils ont pour les gens de mauvaise réputation, c'est sûr, mais exprime aussi le blâme qu'ils envoient à Jésus, qu'ils envoient au Seigneur lui-même. Dans les deux chapitres 5 et 19, Jésus réagit par des affirmations qui sont assez semblables concernant le sens de sa mission. Au chapitre 5, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Au chapitre 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu? Ah tiens, c'est bien de cela qu'il est question dans les trois paraboles du chapitre 15 que nous allons lire. Trois paraboles complémentaires, très proches l'une de l'autre. Le verbe perdre revient 8 fois dans ce chapitre 15. Ce verbe, dans chacune des trois paraboles, sert à décrire une situation identique de la brebis, de la pièce de monnaie et du fils prodigue. Alors bien sûr, dans le cas du fils prodigue, c'est le fils lui-même qui utilise ce verbe signifiant à la fois perdre ou aussi périr. Et quand il dit « Et moi, je péris de faim ici. Donc je suis perdu. » Ce verbe perdre revient dans les exclamations de joie du berger, de la ménagère et aussi du père dans ces trois paraboles. Réjouissez-vous, j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous, j'ai trouvé la drachme, la pièce d'argent que j'avais perdue. Mais festoyons, quand mon fils était perdu, il est retrouvé. Les deux premières paraboles présentent un même schéma à trois temps, perdre. Puis on cherche et puis on retrouve. Et puis elle se termine par une joie identique d'avoir retrouvé. Dans la troisième parabole, les choses se présentent un peu différemment parce que la réalité perdue, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une pièce, c'est un être humain, une personne, et qui revient d'elle-même. Donc il y a aussi un schéma, perdre, revenir. Et retrouver. On voit bien l'unité de ces trois paraboles avec une même justification de l'attitude accueillante, mais bienveillante, salvatrice de Jésus à l'égard des pécheurs. Au verset 4, c'est la parabole de l'homme aux 100 brebis. On trouve presque la même histoire en Matthieu 18. Alors les artistes montrent ici combien c'est difficile de chercher une brebis qui est dans un désert, mais là-bas c'est un désert aussi de montagne. Et dans Matthieu 18, il est dit, elles sont à la montagne. Il y a des ravins. Lisons ce texte. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert? Et ne s'en aille après celle qui est perdue. Et alors, quelle joie de se dire, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il l'a mise sur ses propres épaules, bien joyeux. Étant de retour à la maison, il appelle les amis, les voisins, leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, le berger cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. On pourrait dire qu'il est l'homme qui ne veut pas accepter de n'avoir plus que 99 brebis. Parce que s'il accepte ça, il y en a une autre qui va se perdre, il n'en aura plus que 98, plus que 97. Chaque brebis a la même valeur à ses yeux. Chaque brebis est unique. C'est ma brebis. Et retrouver celle qui est perdue, mais c'est une joie immense et qu'on doit partager. On pense à ce que dit Dieu en Ézéchiel 34. Moi-même, dit Dieu, moi-même, je paîtrai mes brebis. Je les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. La perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Et la blessée. Y en a-t-il ici qui sont blessés? Dieu dit, je la panserai. Et la malade, je la fortifierai. Au verset 4, Jésus nous dit, quel est l'homme parmi vous? S'il nous disait ça ici dans cette salle, l'homme ou femme, que feriez-vous si vous perdiez une brebis? La question nous est posée. Les 99 sont au désert. Elles ne sont donc pas vraiment en sécurité puisqu'elles ne sont pas dans la bergerie. En quelque sorte, elles ont autant besoin d'être sauvées que celle qui est tombée dans un ravin, peut-être. Alors les pharisiens qui écoutent pourraient s'identifier à ces 99 brebis, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À ces brebis qui sont peut-être tranquilles. Mais attention, une fausse sécurité. Parce que pas encore dans la bergerie. Au verset 8, c'est la parabole de la femme aux 10 pièces d'argent, 10 drachmes, et qui en perd une. Une pièce perdue, elle ne peut pas se retrouver toute seule. Il faut que quelqu'un la cherche et mette tout en œuvre pour cela. Il faut éclairer chaque recoin. Balayer. On peut y voir l'œuvre du Saint-Esprit qui éclaire la conscience de l'homme. Là, les couleurs n'est peut-être pas extraordinaire des vidéos, mais ce tableau, je trouve ça extraordinaire. Verset 8. Quelle est la femme qui en 10 pièces d'argent ou 10 drachmes? Si elle en perd une, n'allume la lampe, ne balaye la maison et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis, les voisines, disant « Mais réjouissez-vous avec moi enfin !»« J'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors si l'homme au sang brebis pourrait paraître riche. Cette femme est peut-être plus pauvre, elle n'a que 10 pièces. Et bien sûr, elle ne va pas consentir à en perdre une. La drachme est une pièce d'argent grec, mais du même poids que le denier romain. Or, le denier romain représentait le salaire d'une journée de travail. C'est suggéré souvent la parabole des travailleurs de la vigne en Matthieu 20. Cette pièce d'argent est donc certainement d'une grande valeur pour cette femme. Et d'ailleurs, la répétition du mot 10 drachmes, une drachme, et en plus la description des soins mais minutieux que cette femme a pour retrouver cette pièce perdue, ça montre tout ça que combien mais elle est trop importante à ses yeux. Elle est trop précieuse. Et les auditeurs pharisiens, riches ou pauvres, peuvent très bien la comprendre parce que eux, ils aimaient l'argent. Et ils étaient avares ou amis de l'argent, nous dit Luc d'ailleurs au chapitre 16. La première parabole souligne la compassion de Dieu qui appelle un être perdu. La deuxième souligne l'ampleur de la recherche et aussi le prix que nous avons pour Dieu. Dieu ne se laisse pas d'appeler, Dieu ne se lasse pas de chercher le pécheur. Parce que tout pécheur a une valeur mais inestimable pour lui. Ces deux paraboles sont semblables, bien sûr, nous révèlent l'amour de Dieu sous différents aspects. La compassion divine pour un homme malheureux qui est en danger de mort. Le prix que conserve à ses yeux tout homme, aussi perdu que soit-il. Un homme qui a été créé à son image et qui aurait été destiné à lui appartenir pour toujours. Alors la joie exubérante et communicative de cette femme ne reflète pas aussi la sensibilité mais extrême de l'amour divin. Verset 11. Il dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors, en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est une traduction. Notre traduction, c'est vivant en prodigue. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença d'être dans le besoin. Il s'en alla, il se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, enfin celui qui devait l'embaucher pour lui donner un salaire sans doute, pour lui donner à manger. Et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient. Personne ne lui donnait rien. On parle du fils prodigue. Ben, la prodigalité du fils s'exprime à la fin du verset 13 à travers cette expression « vivant en prodigue ». La parabole est très sobre sur cette façon de vivre en prodigue. Simplement dit, ces deux mots, vivant en prodigue. D'où l'appellation habituelle de cette parabole, bien sûr. Les étapes de la dégradation de la vie de ce fils sont décrites dans les versets 14, 15, 16. Le pays éloigné, où il se rend peut-être une image de l'état de l'homme sans Dieu. On comprend que ce fils prodigue représente les gens de mauvaise vie avec qui Jésus mangeait. Et ces gens qui irritent les pharisiens, ces gens qui les font murmurer et qui pourraient peut-être parfois nous indisposer. Ce fils se retrouve donc à l'étranger. Un pays éloigné, lointain, est-il dit. Il se retrouve sans argent parce qu'il dépense tout. Il est désormais dans une situation assez embarrassante. Mais son infortune ne va pas s'arrêter là. Sa situation va empirer. Premièrement, il y a une famine qui survint. Alors bien sûr, ça aggrave la situation. Deuxièmement, pour survivre, il va essayer de trouver un employeur. Le voilà bientôt réduit à garder des animaux. Encore faut-il que ce soit des cochons. Bêtes considérées par un juif comme impures et répugnantes. Troisièmement, on va dire pour couronner le tout, cet infortuné est forcé de constater que son employeur, pour qui il travaille, se préoccupe davantage de l'alimentation des cochons que de sa propre alimentation. Personne lui donne à manger. Quelle déchéance pour nous qui lisons ça, observateurs. Quelle déchéance pour les pharisiens qui écoutent cette histoire. Mais pensons à la souffrance de cette personne. Quelle souffrance. Au verset 14, il commença d'être dans le besoin. Ce mot, il commença, marque un moment terrible dans l'expérience de ce fils. Cela peut faire écho à des expériences de personnes que nous connaissons. Cela peut faire écho, peut-être, à notre propre expérience. Un moment dans ma vie ou dans notre vie où un enchaînement d'événements malheureux nous conduit à une grande souffrance. Et dans ce moment-là, on se met à réfléchir. Et c'est bien cette réflexion que nous allons trouver au verset suivant, 17. Étant revenu à lui-même, on pourrait traduire, il se mit à réfléchir. Il dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je péris de faim ici. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et se levant, verset suivant, et on le dit, hein, il se levant, il vint vers son père. Malheureux, il pense à son père, à la maison familiale. Il réfléchit. Mais en fait, à la maison familiale, même les travailleurs saisonniers mangent à satiété, tandis que moi, je meurs ici de faim. Il pense même que son père pourra l'engager comme un journalier malgré son inconduite. Il réalise peut-être sa faute, son inconduite. Il prend une décision ferme, mais il se met en route. Et il avouera, « Mon père, j'ai péché. » Alors, voilà, le retour du fils prodigue, est-ce qu'on pourrait comparer ça à une conversion ? Ça paraît idyllique ce retour. J'apporte un petit bémol. Le texte semble laisser planer un doute, il me semble. En effet, il est sans argent. Il est gardien de cochons. Il a le ventre creux et il prend la décision d'aller voir la maison paternelle parce que là-bas, il y a la nourriture. On ne peut pas dire que la parabole idéalise le caractère désintéressé de cette décision. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » C'est vrai que s'il n'y avait que ce verset 18, on pourrait croire à une pure conversion et à un authentique regret de son inconduite. Mais en fait, en réalité, ce verset, il suit le verset où il dit, combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, j'ai péri de faim. Et là, c'est un motif qui est visiblement intéressé. Alors, quelles sont exactement les dispositions du fils? À quelle profondeur sa décision s'enracine-t-elle? Je dirais, père, j'ai péché. Est-ce que c'est bien là son sentiment profond? Est-ce que c'est le motif officiel qu'il va utiliser pour amadouer son père? Qu'est-ce qui prédomine? Je ne sais pas. L'attachement au père avec une reconnaissance de son inconduite ou son intérêt personnel? Il me semble, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous n'êtes pas peut-être d'accord avec moi, mais il me semble que le texte ne permet pas vraiment de répondre. Le texte veut-il suggérer qu'il s'agit d'une démarche, en tout cas, ambiguë? Cette démarche est d'ailleurs décrite finalement que très brièvement. S'est enlevé, il alla vers son père. Alors que cette sobriété du récit contraste avec l'abondance de détails qui concernent l'accueil du père. Mais nous avons parfois la même attitude. Mon cœur est parfois partagé. Mes motivations, sans doute diverses, multiples, est-ce qu'elles sont toujours pures? Je n'en sais rien même moi-même. On a du mal à se connaître. Dieu peut me connaître, lui me connaît. Mais qu'est-ce qu'au fond de mon cœur? Je ne sais pas trop en fait. Qu'est-ce qui m'anime? Aussi David a prié Dieu. C'est une prière que je fais aussi assez souvent, presque tous les jours. Il a dit, au psaume 139, examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie du toujours. Et notre Père qui est miséricordieux est plein de grâce et il nous accueille. Il nous accueille même avec nos ambiguïtés. Gloire du soir. Le Père n'a pas essayé de retenir son fils. Sans doute que il a vu que la décision du fils était irrévocable. Dieu respecte aussi la liberté de l'homme. Lui laisse toute sa responsabilité. La confiance et l'amour doivent être libres. Ce qui a piégé ce fils, ce qui pourrait me piéger, qui pourrait nous piéger, c'est alors peut-être l'amour de l'argent, la recherche du plaisir, l'épanouissement personnel, le tout tout de suite. Et la conséquence, c'est qu'il doit s'adonner à une tâche méprisable pour un juif, nourrir des cochons. Et là, pour lui, la liberté devient illusion. Pour lui, la liberté devient cauchemar. La repentance se traduit ici en action concrète. Il confesse devant son père le mal qu'il a commis contre Dieu. Et le père lui accorde le statut de fils, la position de fils. On va y revenir, bien sûr. Et moi, qui suis-je? Est-ce que je suis en manque d'amour vrai? Est-ce que je suis dans un péché caché? Est-ce que je suis addict à la pornographie? Est-ce que je réalise que dans la maison de mon père, il y a de la joie, de la liberté? La gloire. Revenons et mettons-nous en route. Verset 20, et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, dit le texte, ce fils prodigue, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou. Et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez dehors la plus belle robe et la revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et mangeons et faisons bonne chère. Car mon fils, ma brebis, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère, ou d'autres traductions, ils commencèrent à faire la fête. Alors ces versets décrivent l'initiative du Père, l'accueil du Père, et peut-être constituent la scène centrale. Dans le sens que les autres scènes préparent celle-là et au contraire la critique. Soit ça la prépare, soit ça la critique. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Littéralement, le père est remué dans ses intestins. dans ses entrailles. On trouve exactement la même manifestation d'amour au chapitre 10 de Luc, à propos du bon samaritain qui a rencontré un homme gisant au bord de la route, qui a été pillé, blessé par des voleurs. Et puis il s'écrie, il est dit, il le vit et fut ému de compassion. C'est-à-dire qu'il en est être rué dans ses intestins. Non, c'est incroyable, on n'oserait pas le dire ça, hein, en français au courant d'aujourd'hui. Au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1, il y a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui chante et il dit un cantique. Et il nous dit dans son chant que Dieu possède des entrailles de miséricorde. Paul dit aux Éphésiens, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Et Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce. Dans les versets 22 à 24, on trouve donc une succession de sept verbes qui expriment ce que les serviteurs doivent faire. Et là, on va dire que ces verbes se précipitent. Vite, vite, même commence le père dit, vite, apportez la plus belle robe, et puis il en revêtait. Mettez un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds. Apportez le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons. Le père fait la plénitude de ce qu'il peut faire. Et moi, ça me fait penser quand on va arriver au ciel. On va être émerveillé, je pense. Incroyable. La fête dont on va continuellement vivre, là-haut dans le ciel. Et ces vers pointent une surabondance, on va dire, incroyable, démesurée, mais ce n'est pas possible. Il ne suffit pas qu'on apporte une robe, il faut que ce soit la plus belle. Il ne suffit pas de dire que le Fils reprenne sa place, il faut le lui signifier en lui remettant la bague ou le sceau qui lui confère tous les pouvoirs. Il ne suffit pas qu'on lui passe de simples sandales, mais on va dire qu'il faudrait des sandales de luxe. Par exemple, quand Jésus appelle les disciples et leur dit, les envoie deux par deux et leur dit de chausser des sandales. Dans le grec, c'est sandalion. Quand l'ange dit à Pierre en prison, en acte 12, « Mets ta ceinture et tes sandales », c'est aussi sandalion. Et puis dans le Luc 15, c'est un autre mot qui est traduit par sandales. Il y a un commentateur qui dit que ce sont des sandales pour des circonstances exceptionnelles. Bon, j'ai dû bien le croire, je ne suis pas spécialiste. Il faut donc l'anneau au doigt et les sandales aux pieds, marque de l'homme libre. L'esclave, il va nu-pied. La réhabilitation du fils doit être complète. Mais ça suffit pas pour une fête quand même. Pour le repas des retrouvailles, il ne suffit pas de cuire un chevreau. Ce qui, au goût de l'aîné, aurait peut-être suffi. Il faut que ce soit le veau gras. Un animal qu'on nourrit pendant des mois pour le festin des grands jours, quoi. Quand on va arriver au ciel, ça sera le veau gras. En plus, il faut que ce soit un festin. Réjouissons-nous. Un festin comme le fils lui-même n'en a jamais connu chez son père, au verset 29. Mais attendez, mais c'est pas fini. C'est pas assez tout ça. Le père, il a même réservé les prestations d'un orchestre symphonique, ou philharmonique, je ne sais pas comment on peut dire. Le fils aîné entend la musique et les danses, au verset 25. Il a fait venir un orchestre. Décidément. Mais c'est le Père qui est prodigue. Une libéralité, mais extrême. Une générosité dont on n'arrive pas à croire. Qui frise sa frise à des mesures. Une générosité qui donne sans compter. Quitte à bousculer quand même les critères du raisonnable. Ben oui, c'est quand même irraisonnable de faire tout ça. Quelle extraordinaire fête nous attend quand nous arriverons là-haut. Quand Jésus va nous introduire dans sa demeure de gloire, on pourra dire, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. À chacun, il nous répondra, je suis mort aussi pour toi. Et le Père dira, il faut faire bonne chère et se réjouir. Cela m'évoque aussi les noces de l'agneau en Apocalypse 19. Réjouissons-nous, tressaillons de joie, donnons-lui gloire. Les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Sa femme, l'épouse, l'Église. On peut avoir le sentiment que comme le fils prodigue, c'est plutôt on est revêtu de la plus belle robe que Dieu nous a préparée. Sa femme s'est préparée, il lui a été donné. Ah, il lui a été donné. Oui, donné. D'être vêtu de fin lin, éclatant et pur. J'ai comme l'impression que la sobriété n'existera plus dans le ciel. Mais revenons à Luc 15. Décidément, le fils aîné a des raisons pour avoir de l'amertume quand même. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, clame le fils prodigue, le fils cadet. Oui, on ne sera pas digne. Mais l'œuvre de la croix nous a donné toute la dignité qu'il faut pour entrer dans le ciel. Et cette expression du fils cadet, le père, comme s'il n'avait rien entendu, ou peut-être comme s'il n'en tenait pas compte, il ne réagit pas. Et par contre, il répond direct, il affirme aux serviteurs, pour justifier des ordres extravagants qu'il leur donne, qu'il n'a pas cessé de considérer le délinquant comme son fils. Il lui dit, « Mon fils, que voici, était perdu. » Et il est retrouvé. Comme le fils cadet se trouvait encore loin de la maison, son père l'aperçut et fut ému de compassion. Il courut à la rencontre de son fils, jeta à son cou, l'embrasse. Peut-être que jour après jour, on peut imaginer le père allant au fond de la propriété, scrutant. Est-ce que par hasard, il arriverait aujourd'hui? Et puis un jour, oui, c'est lui! Il relève les pans de sa robe et se met à courir. Mais quand même, c'est assez inhabituel et un peu humiliant peut-être pour un riche propriétaire de se mettre à courir comme ça. Pour se jeter à quelqu'un qui peut-être sent les cochons, pour l'embrasser, lui le tout crasseux, pour le presser sur son cœur. Derrière, des rêtes, des effusions de Dieu. Je peux m'approcher, souvent, par exemple, un bébé, quand il a un enfant, un petit enfant, qu'il a des couches toutes sales, pleines de caca, ça ne lui fait rien que son père le prenne, ou sa maman le prenne dans ses bras. Ça ne lui fait rien du tout. Jésus nous dit de ressembler à ses enfants. Oui, si, quand on est plein de caca dans notre péché, si on arrivait et se jeter dans les bras de Dieu, c'est lui qui va nous occuper de notre toilette. Mais n'ayant pas de honte, comme un bébé n'a pas de honte d'être pris dans les bras, n'ayant pas de honte, Dieu nous embrasse, nous lave, nous sauve. C'est incroyable! Avant même que le fils n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche et de demander pardon, avant même d'avoir pu sonder l'authenticité de ses motivations, le Père multiplie les gestes d'empressement, d'attachement, de réconciliation. On pourrait dire que Dieu a une attitude maternelle, une attitude paternelle dans tous ses soins. Et d'ailleurs, le peintre Rembrandt a relevé cet aspect en peignant le Père ici avec une main de femme et une main d'homme. Le Père donne à son fils le baiser de réconciliation qui efface le passé, qui accorde le pardon, qui donne l'assurance que son amour n'a pas changé, mais qui offre aussi un cadre solide, sécurisant, pour exprimer la gravité de la faute, pour permettre une parole de confession. Accueillons notre enfant qui s'égare. Accueillons quelqu'un qui s'égare dans nos connaissances. Puissions-nous manifester l'amour du Père. Et puis, louons Dieu de nous avoir accueillis avec tant de bonté. Louons Dieu d'avoir fait de nous ses enfants. Parce que chaque jour, il nous accueille dans ses bras. Même si on est sale et pur. Le fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et lui dit, donc le serviteur lui répond, « Ton frère est venu, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas rentrer. Et son père, étant sorti, le pria. Mais lui répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Et quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec tes prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et le père lui dit, « mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Les sentiments du cœur du fils aîné n'ont rien de filial. Jésus va nous présenter par cette image du fils aîné, l'image des pharisiens qui sont mécontents. Ce qui provoque la réaction de l'aîné, ce n'est pas tant que le frère soit revenu, mais c'est les excès que son père déploie pour accueillir ce fils. La musique, les danses suscitent d'abord son étonnement. Et puis au verset 27-28, l'explication du serviteur, « Ton père a tué le veau gras », oulala, ça provoque une colère. Toute la scène se rapporte donc à la conduite du Père. La grâce de Dieu pour une autre personne que moi pourrait-elle parfois m'agacer? Le fils aîné était au champ. Oui, c'est le fils fidèle, responsable, qui accomplit son labeur quotidien. C'est un jour ordinaire, une journée de travail, ce qui rend d'ailleurs peut-être insolite les agissements du Père. Et fait comprendre les étonnements, puis la colère du fils. Mais le père exprime à deux reprises, 24 et verset 32, la joie de la reprise d'une relation avec le cadet. Une relation qui semblait jamais perdue. Vous voyez, le fils était mort. Enfin, la mort, c'est l'absence de relation. Il est vivant. Au verset 28, le père prend maintenant les devants auprès de l'aîné. Car maintenant, c'est le fils aîné qui veut prendre ses distances. Il est choqué, il s'estime lésé par l'attitude du père. Le cadet avait dit « père » au verset 20, mais l'aîné lui omet cette appellation et entame tout de go ses récriminations. « Voilà tant d'années que je te sers !» Le cadet, oui c'est ça, il indique qu'il ne se considère plus lié à son frère cadet. Et qu'il désigne avec dédain « ton fils que voilà !» Cette expression nous fait d'ailleurs penser à une autre parabole de Luc 18, où un pharisien parle avec mépris de ce publicain que voilà, tout en faisant éloge de sa vertu. Le fils aîné dit de même « jamais je n'ai transgressé ton commandement !» D'ailleurs, comme le fils cadet avait dit « J'ai péché, je suis plus digne d'attraper ton fils. » Le publicain en Luc 18 se frappe la poitrine en disant « Mais mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Donc la réponse du père au verset 31-32 manifeste que si son aîné veut prendre ses distances en ce qui le concerne, sa relation avec lui n'a pas changé. Alors que son fils refuse de l'appeler père, et lui il répond « mon enfant, qui est plus affectueux que mon fils ». D'ailleurs, le père dit délicatement que le cadet reste toujours son frère et que si le fils aîné veut bien, il pourra reprendre une relation rompue. Hein, il lui dit, ton frère, que voilà, c'est ton frère. Il était perdu, il est retrouvé. Au verset 29, on va dire que c'est le langage de la propre justice. Le fils aîné, pour lui, être dans la maison du père, ce n'est pas un bonheur. C'est un service. Un service dont il compte même les années, voire un esclavage. La situation est ironique quand même, parce que le plus jeune fils qui voulait revenir comme serviteur est accueilli comme fils. L'aîné, qui a toujours été un fils, se comporte comme un journalier qui ne travaille que pour un salaire. Le fils aîné se vante d'avoir jamais transgressé les commandements de son père. C'est possible. Mais pour un père, quelle est la valeur d'une obéissance sans amour? Dans une famille, le fils aîné peut ressentir particulièrement sur ses épaules la pression de ses parents. Et puis, il accepte de suivre le plan de ses parents sans trouver satisfaction. C'est possible, ça arrive. Et dans ce chapitre 15, le fils aîné, il est jaloux des plaisirs qu'il n'a pas connus, de l'accueil du père, du pardon accordé. Mais il n'a pas trouvé davantage que son frère à la bonté, hein, paternelle. Faut que j'accélère un peu. Le fils prodigue dit, donne-moi la part de l'héritage. Le fils aîné, jamais tu ne m'as donné. L'un se voit comme ouvrier, l'autre comme un serviteur esclave. Ils ont le même langage. Ils ont la même vision d'eux-mêmes. Ils ont la même vision du Père. En fait, ils sont semblables. Un même salut est nécessaire pour tous les deux. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment leur Père. Et pas, ils ne savent pas que le Père les aime. Le fils aîné, peut-être un chrétien de père en fils ici, un propre juste avec le sentiment d'en avoir rien à se faire pardonner. En tout cas, Jésus invite les pharisiens à s'identifier à ce fils aîné. Leur manque d'amour et de générosité révèle la méconnaissance de Dieu. Les pharisiens pensaient que ils n'étaient pas contents que Jésus parle du royaume de Dieu à des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Parce que c'est le royaume leur revenait de droit. Mais en fait, tout est grâce. Peut-être par moment sommes-nous comme ce fils aîné. Faute d'avoir pris la mesure de la grâce de Dieu, et peut-être qu'on peut vivre dans la crainte de sa colère du Père. Mais entendons cette parole libératrice que le Père dit, mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Donc devant la résistance tenace des scribes et des pharisiens, Jésus raconte donc cette triple parabole qui forme un tout. On les appelle la brebis perdue, la dracme perdue, mais en fait, on a d'autres éléments et on pourrait dire que on pourrait peut-être donner les titres suivants, l'homme aux 100 brebis, la femme aux 10 drachmes, le père plein d'amour. Et ces trois histoires sont en fait centrées sur celui, sur Dieu, qui représente ces différents personnages. Dieu souhaite se réjouir avec les hommes. Les hommes qui sont tous perdus. Les deux premières paraboles sont présentées sous forme interrogative. La troisième n'a pas de conclusion. Jésus ne dit pas ce qu'a fait le fils aîné. Est-il rentré dans la fête ou pas? C'est aux pharisiens de décider si à l'appel de Dieu, ils vont entrer ou pas. Jésus, quant à lui, n'exclut personne. Trois histoires liées par un même motif, la joie. Et celui qui trouve la joie des voisins, la joie des anges, et le roi de la joie au ciel. Pour ces trois paraboles, on a une même situation de départ, un homme à 100 brebis, une femme à 10 pièces, un homme à 2 fils. Et donc on va s'attendre que voilà, il va y avoir un fils de perdu, effectivement, il y en a un qui se perd. Mais Le fils, la brebis est passive, plus forte la raison de la pièce d'argent, ne peut pas revenir d'elle-même. Et par contre, c'est le fils qui revient, parce que le père l'attend. Alors, Jésus commence l'histoire par lequel d'entre vous? Cette histoire, c'est peut-être notre histoire, mon histoire. Jésus montre que Dieu veut le salut de chaque homme, que tous viennent à la repentance. Et l'apôtre Pierre nous dit que Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Je conclue bientôt quand même. L'histoire pourrait se terminer par « C'est ainsi que dans le ciel, il y a de la joie pour un fils qui change de vie et qui revient. » Mais non, c'est pas dit. Non, il y a un rebondissement. Jésus attire notre regard vers le fils aîné, du côté de celui qui ne s'est pas perdu. Peut-être moi aujourd'hui. Celui qui a tout fait bien. Celui qui est sérieux. Travaille peut-être pour l'Église. Personne ne sait si le fils aîné a participé à la fête. C'est comme si c'était aux pharisiens d'inventer la fin de l'histoire. Ils sont des propres justes comme les fils aînés. C'est à eux de décider d'entrer dans la joie du Père et en se reconnaissant pécheurs. Alors à nous, propres justes par moment, chaque jour, de décider d'entrer avec toute humilité dans cette maison paternelle. À nous de voir les richesses de sa grâce. Avant de terminer, un petit mot sur les serviteurs mentionnés dans cette parabole. Philippe Garzao en avait évoqué une fois ici même. Là aussi, c'est une belle peinture. On voit les serviteurs à droite. Alors, pour le fils prodigue, dans sa mémoire, dans son être intérieur, les serviteurs semblent être un point d'accroche pour son retour. Et c'est finalement les serviteurs qui lui donnent envie de revenir. Eux, ils ont quoi manger. Les serviteurs sont peut-être ceux qui lui semblent accessibles, auxquels il peut envisager de s'identifier. Ce n'est pas comme le fils parfait, son aîné. Les serviteurs sont ceux aussi qui donnent au fils la position du père, les habits, la bague, les sandales, la nourriture. Et au verset 26, il y a le fils aîné qui appelle un serviteur. Il lui demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui répond en lui expliquant naturellement et simplement la démarche d'amour et de joie du père. Le serviteur ne sait rien de celui qui est l'objet de cette fête. Sinon qu'il est venu, qu'il est en bonne santé. Et ce serviteur parle selon sa responsabilité, selon sa portée, selon ce qu'il connaît. Et ce qui est profond dans l'histoire lui échappe. C'est d'ailleurs un détail qui montre une justesse de cette parabole. Alors bien que la parole ne précise pas explicitement, on peut penser que ce sont peut-être les serviteurs qui vont chercher le père, en lui disant, mais tu sais, le fils aîné, il est resté à l'écart. Peut-être, c'est lui, c'est peut-être les serviteurs. Peut-être que c'est les serviteurs qui viennent dire au père, mais qu'il convient peut-être à lui de s'en occuper de ce fils aîné qui reste à l'écart. Les serviteurs sont comme des éléments d'une chaîne pour rapprocher le perdu, le fils aîné du père, pour amener une âme à Dieu, et pour nous on peut dire perdu vers Dieu. Soyons ces éléments, en tout cas ne soyons pas un chaînon manquant pour amener quelqu'un à Dieu. Je conclue quand même. Réjouissons-nous de ce que nous avons par grâce, ayant l'espérance que notre histoire va se terminer au grand banquet final dans le ciel, avec du veau gras. Mais en attendant, sachant accueillir aussi comme un père, le père de cette parabole, faisons profiter des biens célestes. Soyons aussi des serviteurs pour amener à Dieu celui qui se croit juste, celui qui pense ne pas avoir besoin de lui. En tout cas, vivons de la grâce, vivons dans la grâce et communiquons la grâce. Je termine par juste un dernier point. Attention, des fois, des idées fausses qu'on se fait de Dieu dans notre tête, et il faudra lutter jusqu'au dernier jour de notre vie pour ça. On peut des fois concevoir Dieu comme une balance, un fléau de balance qui pèse les bonnes actions, les mauvaises actions, qui enregistre les poids et les valeurs. Dieu veut passionnément la vie de tous. Celle des pécheurs. Il est prêt même à aller à être conduite, on va dire, injuste, irrationnelle, pour nous chercher. Comme ne jamais donner un chevreau à l'aîné et pourtant offrir le veau gras au cadet. Comme par exemple rémunérer les ouvriers de la 11e heure autant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Jésus nous dit, en Luc aussi, montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.